gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Pickets, do you feel good? Comment ça va? Bien, bon.
Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes en direct sur Radio Canut au 102.2 ou sur radiocanut.org. Et alors en fait, je vous explique tout, parce que là vous entendez des gens parler, tout ça et tout. Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va devoir se connecter avec la Tunisie dans quelques minutes, et c'est un peu compliqué pour nous, mais on va y arriver, ça va bien se passer. À la technique ce soir, c'est Clara.
Bonsoir.
On a aussi MK autour de la table.
Salut tout le monde.
Jean-Yves.
Bonsoir.
Et Fab, moi qui ai fait le lancement. Petit rappel, si vous voulez, si vous voulez nous contacter, c'est lacauseriecanu@gmail.com. Si vous voulez aller sur le blog, c'est blogs.radiocanu.org/lacauserie, ou alors vous allez sur le site de Radio Canu et vous cherchez la causerie. On y est. Voilà. Donc ce soir, on va faire une interview. Ça va être un petit peu folklorique, vous allez voir, ça va être marrant. Mais alors pas l'interview, mais la technique. Mais on va y arriver. Donc je vais laisser Jean-Yves balancer tout ça et ça devrait bien se passer.
Mounir. Mounir, est-ce que tu nous entends ?
Je vous entends, oui.
Ah, super. Nous t'entendons aussi.
Eh bien, alors, on va... Donc, Mounir.
On t'entend pas dans le micro.
Il faut parler dans ton micro, Jean-Yves.
C'est bon, tu m'entends ?
Oui, je m'entends, oui.
Ok. Donc, déjà, on va la présenter. Donc, tu es Mounir Batour. Tu vas peut-être te présenter toi-même quand même. Et ensuite, on parlera de l'actualité. Est-ce que ça te va comme ça ?
Oui, ça me va.
Eh bien.
Je suis Mounir Batour. Je suis le président de l'association LGBT Shams en Tunisie, qui se bat pour les droits des homosexuels et essentiellement pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie.
C'est ça. Alors, j'en profite vite fait pour rappeler aux auditeurs et auditrices de la causerie qui ne suivent ou pas, c'est qu'on avait déjà reçu, nous, IAD de Shams France. C'était dans la causerie 192. C'était juste pour les auditeurs et auditrices. Si vous voulez en savoir sur les activités, etc. de l'asso, voilà, vous aurez un complément aussi dans cette... En France, vous aurez aussi un complément sur ça. Et donc là, effectivement, on est avec donc Mounir, qui est donc le président de Shams Tunisie. Et c'est pas totalement par hasard quand même on est en contact avec toi. C'est parce que vous avez eu des ennuis, dirons-nous, avec la justice tunisienne et le gouvernement tunisien peut-être en premier lieu.
Oui, le gouvernement vient de faire appel d'un jugement qui était en notre faveur, qui a été émis en 2016, qui a reconnu le droit de Shams d'exercer en tant qu'association homosexuelle en Tunisie. Et dernièrement, le gouvernement a fait appel de cette décision, après 3 ans, pour contester notre droit d'exister et dire que nous sommes une association qui est contraire aux valeurs de l'islam et de traditions arabo-musulmanes du peuple tunisien, et que nous devons être déclarés hors la loi, vu que nous défendons une pratique qui est ONI ou qui est étrangère au peuple tunisien.
Donc là, là clairement, la raison pour laquelle le gouvernement fait appel de ce jugement, c'est qu'il considère que le fait que vous puissiez exister va à l'encontre des valeurs du pays. C'est ça ?
Oui, exactement. C'est des arguments qui ont été avancés par le chargé de contentieux de l'État, qui représente le gouvernement dans ce procès, et qui dit clairement dans ses conclusions devant la Cour d'appel que nous sommes une association qui est contraire aux valeurs de la société tunisienne arabo-musulmane.
Est-ce que le monsieur en question, il ne ferait pas un gros amalgame finalement, parce que tous les Tunisiens et Tunisiennes se reconnaissent dans cette défense mordicus de valeurs quand même un petit peu réactionnaires, on va dire, que prétend défendre ce monsieur en fait. Je pense que tous les Tunisiens et toutes les Tunisiennes ne pensent pas comme ce monsieur.
Je pense aussi. Je pense que les Tunisiens et les Tunisiennes sont plus ouverts que ça. Mais c'est une manœuvre judiciaire. Il est dans son rôle d'essayer de trouver des arguments pour faire interdire Shams. Mais nous pensons que c'est une manœuvre qui est impulsée par un stratagème politicien qui veut que cette question soit soulevée dans cette année électorale. Les élections auront lieu en Tunisie, présidentielle et législative, en décembre prochain. Et il y a un débat en Tunisie sur les droits à l'égalité en héritage pour les femmes et tout ça, et beaucoup de voix s'élèvent pour dire que cela est contraire à l'islam. Ils veulent démontrer que eux aussi sont défenseurs de l'islam et que la preuve qu'ils sont contre les homosexuels et que les homosexuels sont des hérétiques, des apostats, des personnes impies, rejetés par l'islam, et que l'État est en train de protéger l'islam en les attaquant.
Et est-ce que tu peux nous rappeler ce que Shams fait concrètement en Tunisie ? C'est quoi le rôle de l'association ? Enfin, quels sont vos modes d'action ? Qu'est-ce que vous menez comme action depuis 2016, justement, et qui est aujourd'hui contesté, pour que les Français qui nous écoutent comprennent quelle est la situation pour vous ?
Ben, Shams essentiellement mène un plaidoyer pour la dépénalisation de l'homosexualité auprès des instances internationales, auprès de l'ONU, auprès de l'Union européenne, auprès des chancelleries qui sont installées en Tunisie. Aussi, Shams défend tous les homosexuels qui sont arrêtés par la police pour cause d'homosexualité et les défend devant la justice. Et essaye de les faire libérer. Je rappelle qu'on a eu 127 cas en 2018 arrêtés et condamnés pour homosexualité en Tunisie. Ce sont seulement les cas qui ont été rapportés à Shams. On n'est pas, c'est pas l'État. Shams, c'est pas l'État. Shams, c'est une simple association. Et on nous rapporte les cas des personnes persécutés par la justice pour leur homosexualité. Mmh. Aussi, nous avons un refuge dans la banlieue de Tunis qui accueille beaucoup d'homosexuels qui sont rejetés par leur famille et, ou qui ont été agressés à cause de leur homosexualité. Nous avons une radio web qui s'appelle Shams Rad et qui fait un plaidoyer énorme et qui est destiné à tous les Tunisiens pour leur expliquer c'est quoi l'homosexualité, pour dire que c'est pas une maladie, c'est pas un choix, et que l'OMS a déclassifié l'homosexualité de la liste des maladies psychiatriques depuis 1992.
Donc votre première mission, c'est l'information, et la deuxième, c'est de venir en aide en fait aux personnes touchées. Et le gouvernement, là, il vous attaque sur les deux plans, en fait. Il veut vous interdire d'exister complètement, c'est-à-dire que tout ce que vous avez mis en place pour aider les personnes risque de disparaître si vous disparaissez, en fait.
Oui, exactement. Le gouvernement veut nous interdire purement et simplement.
Oui, c'est pas. Vous n'êtes pas attaqué juste sur une notion de propagande. Vous êtes attaqué sur votre existence même, en fait. Bah, je te demande ça parce qu'en France, dans les infos qu'on a eues, on pouvait comprendre en fait que vous étiez attaqué juste sur l'aspect propagande de l'idéologie homosexuelle, comme disent les réactionnaires. Alors qu'en fait, au final, non, c'est l'association qui est attaquée en tant que telle pour la faire disparaître totalement, quoi.
Oui, exactement. Ils veulent nous faire disparaître totalement. Il n'y a pas de loi contre la propagande homosexuelle en Tunisie. C'est pas comme la Russie. Et nous, on fait pas de propagande homosexuelle. Nous, on est en train de dire tout simplement, ne mettez plus les homosexuels en prison. Et de toute façon, si vous les mettez en prison, quand ils vont sortir de la prison, ils resteront homosexuels. Ils vont revenir en prison. C'est une condamnation à perpétuité. La loi tunisienne prévoit une peine de 3 ans d'emprisonnement pour homosexualité. Mais c'est pas la vérité. La vérité est que les homosexuels sont condamnés à perpétuité. Parce que ils vont revenir en prison chaque fois qu'ils vont sortir parce qu'ils vont rester homosexuels. La prison ne change pas l'orientation sexuelle et ça, personne ne peut le contester.
Et donc là, du coup, il y avait un procès prévu le 1er mars et a priori, il a été ajourné. Est-ce que tu sais pourquoi ? Enfin, est-ce que vous avez compris ? Est-ce que pour toi, c'est bon signe ou pas que le procès n'ait pas eu lieu finalement ?
Ben, c'est un ajournement de procédural sur notre demande à nous. Nos avocats, nous, ont demandé un ajournement pour préparer la défense. Il a été ajourné au 3 mai. C'est une question de procédure. Ça n'augure ni de bon ni de mauvais pour nous. C'est une question de préparation de la défense de Shams. Nous avons voulu prendre plus de temps et en plus nous avons voulu que notre affaire soit un peu plus médiatisée, qu'il y ait un peu plus de pression sur le gouvernement tunisien avant que ce soit jugé. Et l'affaire ne va pas être jugée le 3 mai, ça va être encore renvoyé à des dates ultérieures. Pour les échanges de répliques entre nous et le gouvernement, ça va prendre quelques mois.
Et d'ici là, en fait, est-ce que Shams peut continuer à exister, en fait, ou est-ce qu'il y a une décision? Vous pouvez continuer à agir et à aider les gens, quoi.
Oui. Il n'y a aucune décision de suspension de Shams. La décision qui a été prise en 2016 de suspendre Shams a été annulée par la justice en première instance. Et c'est cette décision qui fait l'objet de l'appel du gouvernement. Mais l'appel ne refait pas que la suspension soit mise en place encore une fois. Nous nous battrons jusqu'au bout. Et en plus, même si le gouvernement gagne ce procès, il n'y aura qu'un effet de suspension temporaire de l'association, parce que pour dissoudre l'association, il faut qu'ils aillent devant le tribunal sur le fond pour demander dans un procès distinct de dissoudre l'association. Là, on est sur une procédure de vouloir suspendre l'association, pas la dissoudre.
Et alors, j'avais une question. Enfin, quelles sont les réactions en Tunisie, en fait? Enfin, est-ce que vous avez majoritairement du soutien? Enfin, c'est quoi le climat, en fait, quand même pour vous?
Le climat est généralement homophobe, là, surtout de la part des islamistes qui ont actuellement une emprise énorme sur le gouvernement tunisien. Nous, on considère que ce gouvernement est en train de vendre une vitrine de démocratie et de liberté individuelle et de respect des droits des minorités à l'Occident, mais en vérité, c'est un gouvernement dictatorial qui n'a aucun respect pour les droits des minorités et surtout pour les droits des homosexuels. Et est due à l'impact des islamistes qui sont actuellement représentent une majorité relative au Parlement et qui ont beaucoup de ministres et qui influencent énormément le gouvernement pour attaquer les homosexuels. Nous considérons qu'un gouvernement qui ne respecte pas ses minorités, ce n'est pas un gouvernement démocratique, et que ce que la Tunisie est en train de vendre à l'Occident en termes d'image, c'est de la camelote, c'est de la poudre aux yeux. La Tunisie est un pays qui ne respecte pas les homosexuels. Il ne respecte pas ses minorités. Je parle ici des minorités chrétiennes et juives et bahaïs. Et nous ne sommes pas les seuls victimes de cette persécution.
Oui, c'est beaucoup plus large en fait, quoi. C'est-à-dire que finalement, le gouvernement tunisien, avec ses alliés ou pas, je ne sais pas comment on peut les appeler, on va dire islamistes et réactionnaires religieux, en fait, eux, ils veulent un modèle, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de Tunisien. C'est-à-dire, ils sont hétéros, ils sont quoi ? Ils sont musulmans, ils sont... Alors qu'en fait... Alors que la Tunisie est bien plus large que ça, quoi.
Pour eux, un Tunisien doit être hétéro, musulman, monothéiste, qui croit à leur théologie, qui ne boit pas pendant le Ramadan, qui trompe sa femme en cachette, et s'il est homosexuel, il doit faire ça en cachette, il doit vivre comme un rat dans les égouts.
Et moi j'avais une question, parce que nous, vu de l'autre côté de la Méditerranée, on nous a souvent dit que la Tunisie avait vécu une révolution, et qu'aujourd'hui, en Tunisie, ça allait beaucoup mieux. C'est un peu ce qu'on nous vend. Nous, justement, tu parlais de nous vendre une image de la Tunisie. Nous, on nous vend une Tunisie ouverte, très ouverte sur le monde, très ouverte sur même en interne, hein, pour ces minorités. Et toi, tu as l'air de dire que ça, c'est une image qu'on nous vend. Et je te crois sans aucun problème, hein. C'est juste, à ton avis, pourquoi c'est fait ? L'idée, c'est de faire revenir le tourisme tout en maintenant la population dans une idéologie stricte ?
C'est fait pour que la Tunisie essaie de s'en sortir de son marasme économique très, très grave. La situation économique en Tunisie est catastrophique. Le pays est au bord de la faillite. Le dinar tunisien a perdu 80% de sa valeur. La situation en général sur le plan économique et social n'est pas bonne du tout. Le taux de chômage, il est de 15%. Le taux directeur d'intérêt de la Banque centrale vient de passer à 8,5. Les alarmes sont au rouge sur la situation économique. Alors, le gouvernement s'abat sur des questions sociétales qui ne vont pas régler les problèmes économiques de la Tunisie. En plus, la Tunisie reçoit en moyenne 300 millions d'euros d'aide de la part de l'Union européenne. Alors, le gouvernement a intérêt à plaire à l'Union européenne et à expliquer que ce qui se passe pour les homos, ce n'est que des dépassements individuels. Et nous, en tant qu'association, quand on a contesté cet appel contre nous, ce recours judiciaire injustifié contre nous, nous avons eu des échos comme quoi le gouvernement ne cautionne pas ça, et le gouvernement n'était pas au courant que le chargé de contentieux de l'État a fait appel. Mais un État a la raison d'État, c'est-à-dire ils vont aller jusqu'au bout, ils vont essayer de nous suspendre et éventuellement nous dissoudre, mais nous on se battra jusqu'au bout pour dire que les PD existent en Tunisie. Il y en a même des centaines de milliers de PD en Tunisie, et que c'est révolu l'époque où les PD avaient froid
Allô ? Ça a coupé.
Il vivait discrètement. Nous, on ne veut plus vivre discrètement. Et la Tunisie a eu une révolution. Cette révolution doit bénéficier à tout le monde. Et il y a eu le seul acquis de cette révolution, c'est la liberté d'expression et la liberté d'association. Nous sommes une association légale qui existe sur le plan légal et qui agit pour des personnes qui sont dans la détresse, dans une situation catastrophique. En plus, l'État les fout en prison. Nous ne sommes pas en train de réclamer ni le mariage pour tous, ni le droit au changement de sexe, ni le droit de ne pas opérer les intersexes, ni le droit, ni tous ces droits, ni la PMA, ni la GPA, ni rien du tout. Nous sommes en train de dire ne mettez plus les homos en prison parce que ben ça ne sert à rien. Ils resteront homos, même si, sauf si vous les tuez. Si vous agissez comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran qui prononce des peines de mort contre les homos, ben, dites-nous que vous êtes en train d'appliquer la charia de l'islam et que nous ne sommes plus dans un état civil, nous sommes dans un état religieux.
Et justement, comment est-ce que nous, on peut vous aider ? Parce que est-ce qu'on peut apporter... Alors, on peut médiatiser votre combat, il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, on te remercie d'être avec nous ce soir pour un peu mettre en lumière ce qui se passe. Mais comment est-ce qu'on peut vous aider concrètement, je ne sais pas, financièrement, humainement, je ne sais pas.
Pour ceux qui veulent faire des dons à Shams, ils n'ont qu'à contacter notre page sur Facebook, Shams pour la dépénalisation de l'homosexualité en Tunisie. C'est une page qui contient plus que 135 000 abonnés. Et nous, on leur envoie notre relevé d'identité bancaire pour qu'ils puissent faire des dons. Cela sert, bien sûr, parce que les personnes qui sont dans notre refuge ont besoin de manger, d'étudier, d'avoir... professionnels, on paye leur loyer, tout ça, c'est très important, tout ça. Mais le plus important que ça, c'est pas l'aide financière, c'est le soutien auprès des instances internationales, que les personnes qui trouvent que ce qui arrive actuellement à Shams et aux homosexuels en Tunisie s'expriment et envoient des lettres au Parlement européen, au Parlement français, contacter les parlementaires français, les parlementaires européens. Le Parlement européen, surtout, a beaucoup d'impact sur la Tunisie. Nous avons poursuivi l'État tunisien devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour persécution des homosexuels. Et nous voulons aussi que les Français... on voit des lettres à leurs députés européens pour leur dire d'agir et de présenter une motion dans le Parlement européen qui oblige la Commission européenne à cesser toute aide à la Tunisie tant qu'elle n'a pas dépénalisé l'homosexualité.
Et il y a quelque chose qui tombe très très bien, je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est la campagne des élections européennes en Europe. Donc c'est un sujet qu'on peut porter auprès des futurs députés au cours de cette campagne. Donc voilà, il faut encourager les gens qui nous écoutent à le faire, comme tu disais, à écrire, à parler et à visibiliser votre situation. Ça peut influer pour ce qui vous arrive en fait.
Oui, surtout qu'il y a un groupe LGBT au Parlement européen qui nous soutient, qui a déjà publié une lettre ouverte destinée au gouvernement tunisien pour lui demander de cesser de persécuter les homosexuels en Tunisie. Mais nous voulons plus. Nous voulons que des députés européens, surtout les députés européens qui représentent les Français, puissent agir d'une façon plus virulente. Qu'ils aillent devant la Commission, faire des questions orales ou écrites et lui dire pourquoi vous donnez 300 mois.
Ça a coupé.
Mounir. Mais en prison.
Ah, oui, ça avait coupé, mais vas-y.
Est-ce que tu peux répéter ce que tu disais à la fin? Ça a coupé, malheureusement.
Les Français s'adressent à leurs députés européens pour leur demander de présenter des motions et des questions écrites à la Commission européenne pour lui dire comment ça se fait que 300 millions d'euros sont donnés à la Tunisie chaque année et que la Tunisie met encore les homosexuels en prison. C'est ça la question qu'on veut que les députés européens français posent à la Commission européenne.
Eh bien, on espère que les auditeurs, auditrices, même s'ils ne sont peut-être pas fans de leurs députés, même peut-être des élections, en tout cas, fassent connaître votre situation, fassent connaître votre lutte, en tout cas judiciaire, mais aussi vos luttes et vos actions en Tunisie, parce que je pense que c'est absolument, c'est vital, quoi, en fait, d'avoir des associations de soutien et d'entraide. Et est-ce que tu as.
Bah, le mot de la fin, est-ce que tu as quelque chose à ajouter parce qu'on arrive à la fin de l'interview?
Ce que j'ajoute vers la fin est que les Européens doivent faire attention en venant en Tunisie. Ils doivent savoir que c'est un pays homophobe. Ils doivent savoir que moi, en tant que défenseur des droits des homosexuels, j'ai déjà eu des plaintes des Européens qui ont été victimes de guet-apens de personnes homophobes qui leur ont fait du chantage et qui leur ont fait beaucoup de mal. Une personne européenne homosexuelle qui se fait voler ou braquer ou agresser en Tunisie, si elle porte plainte, elle risque elle-même d'aller en prison pour son homosexualité. La loi est applicable sur le territoire tunisien, pas seulement pour les Tunisiens, même pour les touristes qui viennent en Tunisie. Je ne vais pas faire un appel au boycott du tourisme tunisien, parce que cela pourra être considéré comme une trahison à la Tunisie. Mais étant tunisien, je dis à tous ceux qui viennent en Tunisie et qui sont homosexuels de faire énormément attention. C'est un pays où le gouvernement est homophobe et qui a une politique pénale d'incarcération systématique des homosexuels.
Et j'aimerais rappeler à ceux qui voyagent, qui viennent d'Europe et qui vont en Tunisie, rappelez-vous un temps où nous-mêmes en Europe, dans différents pays, nous étions également interdits d'être homo, d'être lesbienne, d'être trans, d'être intersexe. Ne l'oublions pas et que c'est la continuité de l'histoire de l'humanité, quoi. Enfin, il y a des liens entre nous toutes et tous, ne serait-ce que par le fait que nous sommes tous humains. Et que faut pas l'oublier, quoi. Il y a pas lieu de faire du différentialisme pour les Tunisiens, que ce serait logique, que je ne sais pas pour quelle raison c'est normal, ce serait culturel. Non, en fait, il y a des homos, des intersexes, des lesbiennes partout dans le monde, amis réactionnaires et religieux de toute obédience, sachez-le, c'est comme ça. Ça fait partie de l'humanité. Et ben nous, enfin, je vais parler pour tous ceux et celles qui sont autour de nous, mais on vous apporte absolument notre soutien. Et n'hésitez pas, si on peut faire au moins un petit peu ce boulot de transmettre votre parole et vos luttes, ben n'hésitez pas.
Est-ce que tu es encore là? Allô?
Allô? Mounir? Allô, Mounir?
Ah.
Alors, je crois que... On l'entend, mais je pense que lui nous entend plus.
C'est les joies de la technique de Radio Canu. Et ben on va le joindre, on va mettre une musique, on va le joindre en tout cas.
Allô.
Ah, ça y est, ça refonctionne. Tu nous entends, Mounir?
Est-ce que tu nous entends?
Bon, on va mettre une musique et puis on remercie. En tout cas, Mounir Bahatour, d'avoir été avec nous ce soir et de nous avoir donné des informations sur Chams et sur ce qui se passe en Tunisie. Voilà, on se tiendra au courant et on reviendra le plus vite possible vers eux. Et puis voilà, et puis de tous les cas, il y a un procès le 3 mai a priori. Donc d'ici là, dans la causerie, vous aurez des nouvelles et on espère peut-être avoir de nouveau Mounir ou quelqu'un d'autre pour nous éclairer sur ce qui se passe en Tunisie pour les homosexuels, lesbiennes, gays, bi et trans de ce pays.
Et l'internationalisme, c'est pas qu'un slogan. L'internationalisme, faisons-le vivre.
Et ben voilà. on met un peu de musique et puis ça nous permettra de rappeler Mounir pour pouvoir le remercier. C'est et ça. On revient juste après.
À l'écoute de Radio Canu et de la causerie, comme tous les dimanches, de 22h à 23h.
Et elle a même causé pendant le titre, la causerie.
Oui, c'est vrai. Désolé.
Bien son nom, là.
Eh bien, enfin, Enfin, vous l'avez sûrement entendu, mais on remercie encore une fois Mounir Batour et on apporte tout notre soutien aux militantes et militants LGBT, féministes, en tout cas antisexistes, antipatriarcales et pour
et les athées aussi. Hein.
Les athées, enfin les minorités, etc. Voilà.
Ils sont en Tunisie aujourd'hui et puis partout dans le monde.
Partout en fait.
Juste quand même, avant que tu nous dises autre chose, c'est quoi le titre ?
Ah oui, c'est vrai. On vient d'écouter, pardon, Tchégué avec le titre Survivor.
Oui, et juste dire que toutes les infos pour joindre Shams Tunisie et pour pouvoir les aider, on les mettra sur le blog, évidemment. Et donc, vous pourrez aller les chercher. On change complètement de sujet, quoique, pas tant que ça.
Voilà.
Et on va vous parler cinéma.
C'est ça, cinéma. Eh bien, on va vous parler ce soir du film Grâce à Dieu. Ouais, c'est ça. Du réalisateur François Ozon. Je pense peut-être, ami auditeur, ami auditrice, que tu en as entendu parler de ce film. On va aller vite fait quand même. Le film, en fait, c'est une fiction inspirée fortement du réel. Tout ça, hein, c'est dit au début du film, qui revient sur l'affaire donc du curé Prénat, ce prêtre pédophile violeur qui a été couvert pendant des années par l'épiscopat. Et c'est alors un peu une affaire, on va dire, locale, mais en fait, elle a des résonances finalement à travers le monde, parce qu'on se rend bien compte que ce genre de situation-là n'est pas exclusive à Lyon.
Et on va quand même rappeler que ce qui se passe à Lyon en local avec l'archevêché est en fait au premier niveau de la hiérarchie catholique en France, parce que je vous rappelle que le cardinal qui est à Lyon est le premier cardinal de France. Hein, donc c'est pas anodin quand quelque chose se passe à Lyon.
C'est ça.
Pas pour la fierté de la ville, c'est juste pour que les gens comprennent ce que ça implique.
C'est ça. Et alors peut-être qu'avant qu'on continue sur le film, on peut peut-être quand même filer quand même quelques noms d'acteurs et d'actrices.
Oui, alors on retrouve dans le film, alors François Ozon a l'habitude de très bien s'entourer dans ses films, et là il y est encore une fois arrivé. Donc on retrouve Melville Poupeau, hein, qui joue Alexandre Guérin, un père de famille qui va déposer la première plainte, qui vient d'une famille bourgeoise lyonnaise. On a Denis Ménochet aussi, qui joue François Debord, qui est athée, qui vient de la classe moyenne. On a Swann Harlow, qui joue Emmanuel Thomassin, qui est une famille plutôt pauvre et qui va avoir un parcours de reconstruction tout au cours du film. Josiane Balasco, qui va jouer la mère d'Emmanuel. Hélène Vincent, qui fait la mère de François. François Martouret, qui joue le cardinal Barbarin, et je peux vous assurer que c'est bluffant. Ouais. Bernard Verlet, qui joue le père Prénat, l'agresseur pédophile, et qui est lui aussi, malheureusement, comme il le dit dans une interview, bluffant, mais sans le vouloir.
C'est-à-dire
qu'il a juste rejoué ce qu'on connaissait de lui, mais voilà.
Ouais. Alors peut-être déjà cette première info autour du titre du film, en fait, parce que Grâce à Dieu, c'est, il tombe pas par hasard, en fait. En fait, ça vient d'une expression, hein, qui a été employée par Barbarin lors d'une conférence, en fait, de presse autour de l'affaire Prénat, hein, où il a dit: les faits sont pour la plupart prescrits grâce à Dieu. Ouais. Et ça avait évidemment dans la salle, et pas que dans la salle, ça avait déclenché quand même un truc de se dire attends, mec, en fait là tu viens de dire
grâce à Dieu, ça veut dire heureusement, hein, je rappelle.
C'est ça, heureusement, en fait, toutes ces affaires sont prescrites, donc ce qui donne quand même un point de vue assez particulier de la part de ce monsieur Barbarin. Donc voilà, je trouve que c'est aussi quand même intéressant d'avoir repris ne serait-ce que cette expression qui est quand même lourde de sens comme titre du film, et c'est vraiment c'est intéressant. En plus, c'est une scène qu'on revoit aussi dans le film.
Bien sûr. Oui. Alors oui, il faut voir, on va le dire quand même, le film, c'est un film un peu didactique, c'est-à-dire qu'on va vous retracer l'affaire Prénat de A à Z. C'est pas un film d'action, hein, c'est clairement pas ça. C'est plutôt un film de compréhension, c'est-à-dire où on va vous donner beaucoup d'informations en 2h20 de mémoire, et il me semble que le film fait 2h20. Donc c'est un film qui peut être parfois un peu ressenti comme lourd et lent, parce qu'effectivement, en fait, il y a beaucoup de choses à digérer et à comprendre, mais c'est à mon avis très difficile de faire autrement que comme ça, surtout compte tenu du fait que le film suit quand même des arcs de vie, comme on dit, des moments de vie, et que du coup faut bien vous reposer les personnages à chaque fois, donc c'est un peu ce qui complexifie. Par contre, le film a eu des pressions, hein, de la part de l'Église catholique, qui je pense que vous en avez entendu parler, a tenté de faire en sorte que le film ne puisse pas sortir. Alors le premier argument, c'était la rupture de la présomption d'innocence du père Prénat. Alors que moi, qui ai vu le film, je peux vous dire qu'à aucun moment dans le film, on ne nie sa présomption d'innocence, vu qu'on rappelle dans le film ce qui est vrai aussi dans la réalité, que le père Prénat n'a jamais nié avoir violé des enfants. Donc, à un moment donné, il a lui, à ce moment-là, lui-même, il a nié sa présomption d'innocence. Sauf que, bah non, en fait, comme lui, voilà, voilà. Et la deuxième chose, c'était une atteinte à l'image de Monseigneur Barbarin, comme on dit dans les journaux. Je rappellerai juste aux journalistes, parce qu'il est quand même temps que vous mettiez ça en tête, hein, que devant la justice civile, en fait, on n'est plus Monseigneur, hein, on est Monsieur Barbarin. Voilà, je le rappellerai juste comme ça, hein, parce que la France a une séparation de l'Église et de l'État. Donc, quand vous êtes jugé, vous n'êtes pas jugé en tant qu'évêque, vous êtes jugé en tant que citoyen. Donc, voilà, il serait temps que les journaux rappellent ça, juste au passage. Et en fait, ça a été raté parce qu'en fait, les deux fois, la justice a dit, ben, en fait, non, il y a aucun problème. Les juges ont vu le film et ils ont dit, ben, il y a pas de souci judiciaire. Donc, très clairement, débouté. L'Église est dégoûtée que ce film sorte. Voilà.
Mais en même temps, on se rappellera quand même que c'est pas la première fois que le Vatican, enfin, et toutes ses succursales, etc., essayent d'interdire un film. Ils aiment pas trop l'art, en tout cas, quand il peut un peu froisser leur idéologie.
J'ai appris qu'il y avait une association qui voulait lancer des prières devant les salles pour interdire. Alors, je sais pas quelle est cette association, puis on va pas leur faire de la pub.
Non, c'est des intégrations.
Oui. Alors, c'est pas la librairie, la
Non, c'est pas les. Non, c'est agréable.
Ah là, c'est en un seul mot. Donc en fait, voilà. Et donc du coup, ils ont essayé et même là, eux n'y sont pas arrivés parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se sont dit, ouais, voilà, ça le fait moyen quand même d'aller dire, il faut pas dire la vérité.
C'est ça. Mais ils sont pas à ça près. Et ben bon, alors le film plus précisément, parce que là enfin surtout moi,
tu digresses.
C'est ça, c'est exactement ça. Donc en fait, le film en fait, il se concentre sur la naissance de l'association La Parole Libérée. On en a déjà un petit peu parlé ici, et vous en avez forcément, je pense, entendu parler de cette association, même à l'échelle, on va dire hexagonale, et qui effectivement, donc cette asso, elle regroupe au départ donc les victimes du père Prénat ou des soutiens aussi évidemment de ces victimes là. Et ce qui est vachement intéressant et ce qu'on retrouve dans le film en fait, c'est justement la différence en fait de toutes ces victimes. En fait, elles partagent, on va dire, un statut de victime, mais au-delà de ça, en fait, ils ont chacun leur vie, leur caractère, leur personnalité, et ça, c'est justement, je trouve, assez intéressant.
Oui, ça se voit dans les profils. Et d'ailleurs, les profils, les gens, vous les connaissez parce qu'en fait, c'est ceux qui passent dans les médias. Hein.
C'est ça.
En réalité, là, ils sont joués par des acteurs, mais vous pouvez les retrouver en interview ou autre dans les médias. Donc, en fait, voilà. Donc, par exemple, on a Alexandre Guérin, hein, qui est plutôt issu d'une famille huppé lyonnaise, limite traditionnaliste, très pratiquante. Voilà. Il va croiser, en fait, un François Debord qui, lui, c'est lui qui va d'ailleurs avoir l'idée de créer l'association, mais lui, son expérience, ça fait plutôt de lui un bouffeur de curé athée, anticlérical convaincu. Lui, il est plutôt issu d'une classe moyenne, comme on en trouve beaucoup dans les monts du Lyonnais. Voilà, pour que les gens se rendent un peu compte. Alors, il semble d'une famille ouverte, puis on découvre que tout n'y est pas si simple et si rose non plus, et qu'il n'y a pas de choses merveilleuses et faciles. Et en fait, ils vont être rejoints en fait par Emmanuel Thomassin, qui lui est plutôt issu d'un milieu prolétaire pauvre. Ils viennent d'une famille un peu cassée au départ et où on pense réparer les choses en donnant un petit peu de rigueur à un enfant en lui disant va au scout, ça va bien se passer. En fait non, ça se passe mal. Et en fait du coup on voit aussi, lui plutôt, que l'association va être un moyen de réparer sa vie, mais pas au sens total, mais plutôt de reprendre pied dans sa vie parce que voilà.
Et lui, enfin, je fais un petit écart, mais l'acteur est génial. Ce personnage, on le sent d'une fragilité et en même temps d'une colère et d'une violence aussi, parce qu'on le voit à un moment donné dans sa vie intime. Il y a vraiment, enfin, l'acteur est très bon. Enfin, les auteurs aussi. Hein.
Je le rappelle, s'appelle Swann Harlow et pour moi, c'est un des plus grands acteurs français aujourd'hui.
Ah ben, je ne sais
si vous
pas
l'avez
sur
jamais
les
vu
autres,
dans,
mais...
si vous voulez voir un autre film, vous regardez Petit Paysan, c'est juste superbe. Aussi.
Et ouais, enfin,
il avait eu un César, et c'est pas pour rien.
D'accord. D'accord. Et ben, enfin voilà, donc c'est vraiment effectivement, on a toutes ces sensibilités là, ce qui donne encore une fois de la complexité à toute cette lutte, parce que finalement, même dans cette lutte là, chacun va partir avec ses bagages, avec son vécu, mais aussi avec son objectif finalement.
Ouais, en fait, ce qui va les réunir, c'est d'être victime enfant du père Prénat.
C'est ça.
Et finalement, se réunir là-dessus, au départ, ça peut paraître très, très étrange, parce que c'est pas forcément une raison pour laquelle on aurait envie de se réunir, entre guillemets. Mais en fait, c'est la libération de la parole qui va finir par les réunir, et le fait qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont tous été abusés par le père Prénat, souvent dans les camps de scouts que le père organisait à l'étranger, mais aussi dans les cours de catéchisme ou de soutien scolaire qui étaient étonnamment donné par ce père qui aimait beaucoup, beaucoup être entouré d'enfants. Et moi, ce que j'ai aimé dans le film, et vraiment, vraiment, je trouvais que c'était très subtilement amené, c'est que le film souligne bien quelque chose, c'est que libérer la parole ne suffit pas. C'est-à-dire qu'en fait, libérer la parole, c'est un moyen de, oui, d'avancer, mais ça ne se suffit pas en soi-même et c'est pas magique. Et c'est bien de rappeler ça, parce que très souvent, on entend dire que il suffirait de libérer la parole pour que ça aille mieux. Et d'ailleurs, une scène du film, je suis désolé, je vais un peu spoiler, comme on dit, mais elle est au tout début du film, et je trouve qu'elle est intéressante et elle est très parlante, c'est celle de la psychologue de l'église qui va réunir en fait deux personnes, le père Prénat et une de ses victimes, et qui en fait va culpabiliser non pas le père Prénat, mais la victime. C'est-à-dire qu'au final, on va même aller jusqu'à lui demander de prier avec ce père Prénat pour lui donner le pardon.
C'est ça.
Et toute la théorie de cette psy, c'est de dire, une fois que la parole est libérée, tout va mieux. Ben non, parce que ce qu'on attend, c'est justice et réparation. Et que donc, du coup, c'est pas juste la justice divine et puis le coucou Seigneur, comment tu vas? Est-ce que tu peux lui accorder ton pardon? Et c'est très intéressant parce que c'est montré dans le film avec beaucoup de subtilité et c'est ce que j'ai aimé justement dans le cinéma de François Ozon et dans ce film, c'est qu'il évite le pathos. Et ça, c'est important pour moi, en fait.
Ah oui, enfin, il évite le pathos. Je trouve qu'il évite la simplification.
Oui.
Parce qu'encore une fois, je reviens là-dessus, mais vraiment, on a, enfin, les victimes se retrouvent face à de multiples réactions. C'est, il va y avoir le soutien, et d'ailleurs, il y a quelque chose que je trouve très intéressant aussi, c'est qu'il y a une forme de solidarité de victimes qui dépasse uniquement les victimes du père Prénat. Il y a quelque chose de, je trouve que le lien est joliment fait entre finalement, quel que soit le bourreau, il y a cette solidarité de victime en fait.
N'est pas automatique non plus.
Mais qui n'est pas automatique non plus, mais en tout cas qu'on voit la mise en place. Et après, enfin, il y a aussi, ouais, il y a tous ces non-dits, les réactions, les surréactions de certains, et où en fait, vous comprenez que les même certains, leur réaction ou leur surréaction, elle n'est pas non plus anodine et elle vient pas non plus de nulle part. Donc vraiment, on est dans de multiples combats, en fait. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est très vivant. Et en même temps, effectivement, il y a des moments où moi, je me suis un peu fait chier, je trouve. Enfin, c'était un peu lent. Mais qu'en même temps, enfin, c'est.
C'est un cinéma démonstratif. De toute façon, on est dans du, je vais te dire ça sans méchanceté, on est dans du cinéma français, un peu démonstratif, un peu, voilà. C'est un peu les défauts des films français en général. Mais malheureusement, je me dis, François Ozon a tourné ce film, on a oublié de le dire, mais en cachette. Donc, parce que justement, il voulait éviter qu'on puisse empêcher le film de se faire. Il aurait pu le tourner ailleurs qu'à Lyon, mais il a choisi de le tourner à Lyon, ce qui était très, à mon avis, courageux aussi. Et en fait, c'est intéressant parce que du coup, je pense que c'est ce qui fait les défauts du film. C'est-à-dire, moi, je l'ai mis sur ce dos-là. C'est-à-dire que certaines scènes n'ont pas dû avoir le temps d'être retournées ou des choses comme ça, où on a pris la première prise et on s'est dit, bon, voilà, là, c'est bon. Donc, il y a quelques défauts pour moi au film. Parfois, c'est un peu surjoué. Par contre, ce qui est intéressant, vraiment pour moi, c'est le fond. C'est-à-dire que le film est sauvé par le fond et justement, je trouve qu'on sort de ce film en comprenant ce qu'est l'univers lyonnais et son rapport, en fait, finalement, le rapport des politiques et des industriels au milieu de religieux lyonnais, le poids du milieu religieux à Lyon, qui n'est pas un poids anodin, contrairement à ce que certains essayent de faire croire, le fait que Barbarin, c'est pas n'importe qui et qu'en fait, finalement, il est vu ici vraiment à Lyon comme en France, comme le bras droit du pape, et qu'en fait, ben du coup, quand Barbarin cache un crime pédophile, et peut-être pas qu'un d'ailleurs, et ben du coup, parce qu'au départ c'est un, mais après il se rend compte que c'est des centaines d'enfants qui ont été abusés, c'est très étrange, parce qu'on comprend, je trouve que le film arrive à démontrer ça, c'est-à-dire que, oui, en fait, Barbarin s'en fout. Lui, ce qu'il cherche à sauver, c'est la curie. C'est-à-dire l'image de l'Église. Et le reste, les enfants, les victimes, tout ça...
Bah, le pardon les aidera, quoi, voilà. Finalement.
Et rien que d'être arrivé à faire passer ça, c'était important, parce que je trouve que très souvent, on minimise le fait et le rôle, finalement, des supérieurs de ces personnes-là. Et je reviens à ce que je disais dans une autre émission, c'est quand même étonnant de voir et tant mieux, dans l'éducation nationale par exemple, on prend des mesures immédiates et très fermes, et même on donne même la liste des noms, et on est très clair sur le fait que ces personnes ont été
les profs,
ou ATSEM, ou les personnes qui sont mises en accusation. Là en fait on se rend compte que c'est une bataille s'ils n'avaient pas pu médiatiser leur bataille, finalement l'Église aurait fait comme d'habitude, elle mettait ça sous le tapis et puis tout va bien quoi.
Ben surtout que je me dis oui, parce que peut-être que même dans l'éducation nationale, ça, peut-être qu'en remontant dans le temps, on se dit peut-être que c'était un peu fait pareil, c'est-à-dire que on enlevait sans vraiment le dire. Sauf qu'effectivement, avec les cas qui ont été avérés, on peut se dire tiens, l'éducation nationale, même si c'est critiquable dans d'autres points de vue, elle a pris des mesures.
Ah, mais là, sur cet aspect-là, je parlais.
C'est ça. Et là, en fait, on se rend compte que le Vatican, les mesures qu'il prend, en fait, c'est de soulever le tapis, de balayer la poussière en dessous, et finalement, tout va bien dans le meilleur des mondes, et Dieu est sauvé, et le clergé est sauvé, et les victimes, on s'en tape. Et effectivement, cette scène de prière avec le bourreau, c'est d'une violence. Vraiment. Donc, je ne sais pas si tu avais encore d'autres choses à rajouter, mais
non, juste aller le voir parce que
c'est sorti. Ça. Je pense que vous avez compris. On vous invite fortement à aller voir ce film, donc Grâce à Dieu, de François Ozon.
Oui, et moi, je vous conseille aussi de faire des recherches sur, d'aller sur le site de la Parole Libérée, parce que je l'ai fait. Leur site est très bien fait. Il y a maintenant, aujourd'hui, je crois, des centaines de témoignages de gens. C'est très important de voir, de se rendre compte, en fait, de l'aspect qui n'est
de
pas...
De l'ampleur.
De l'ampleur, et puis de l'aspect de ce que va représenter cette affaire, parce qu'elle n'est pas juste comme on essaie de le faire croire, à l'aune d'une ou deux personnes, c'est vraiment... Et que c'est un vrai système. Et aller sur le site de la Parole Libérée, vraiment, même si je ne suis pas en accord avec eux sur les conclusions qu'ils font vis-à-vis de l'Église, parce que je suis anticlérical, mais je comprends pourquoi ils ont cette position-là, mais par contre, c'est important de lire la parole des gens et de lire ce qui a pu se passer et de voir à quel point les familles, parce qu'il y a des familles qui témoignent aussi, se sont tues juste parce qu'il fallait faire bien, tout simplement. Et c'est important de voir ça. Voilà.
Et c'est marrant que tu dises je suis anticlérical. Et en fait, vous trouvez aussi ce conflit-là dans le film.
Oui,
parce qu'effectivement, vous avez des profils différents, comme tu l'as expliqué au début en présentant les acteurs et les personnages. Donc, c'est effectivement tout ce conflit-là, on l'a entre les différentes positions. Est-ce qu'on le fait de l'intérieur de l'Église, pour faire changer l'Église, parce que, quand même, le message de Dieu, c'est quand même important? Ou est-ce que, d'autres personnages, ou en tout cas un, le soutien, c'est en fait faut détruire tout ça quoi. Enfin, le problème il est porté même par le dogme en fait. Donc c'est vraiment, on sort du simplisme, du gentil méchant, et il y a quelque chose de très très complexifié et c'est très intéressant. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose?
Non, MK, tu vas aller le voir.
Ah mais carrément.
Voilà.
Non, vraiment. Non,
Clara, tu l'as vu.
Si vous avez spoilé 2-3 trucs.
Mais... Ah bah oui, mais de toute façon c'est l'affaire Prena, donc voilà.
Attendez, Clara, elle a dit un truc.
Non.
Non mais tu l'as vu ou
moi
tu
je l'ai
le...
vu oui.
Ouais. Et tu as aimé?
Oui.
Ouais. Okay. Et tu le conseilles?
Je le conseille.
On n'a pas dit trop de bêtises?
Non, je partage votre avis.
Donc voilà, donc vous avez 3 personnes sur 4 dans ce studio qui vous disent allez voir Grâce à Dieu de François Ozon.
C'est
donc,
ça.
On espère qu'on vous aura convaincu. On passe un peu de musique mainstream.
Oui, c'est voilà. Ça. On va passer un titre hyper mainstream, mais je vous emmerde parce que moi j'adore. Non, mais je vous aime quand même. Allez, on se l'écoute.
Bye.
vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et de la causerie qui est sur Radio Canu.
C'était pas Virgin Radio là.
Il est méchant. Tout le monde il est méchant avec moi, non, parce que j'aime la musique mainstream.
Qui c'était?
Eh ben c'était Clara Luciani avec le titre La Grenade, et je l'adore ce titre. Et moi j'adore. Cette chanteuse.
Je vais te dire un truc. Moi, je pense que c'est pas parce que c'est populaire que c'est mauvais, parce que je trouve que Clara Luciani, c'est très bon. Et je le dis comme je le pense. Pour moi, c'est la Florence and the Machine française. Voilà. et c'est pas dans ma bouche anodin. Parce que j'adore Florence and the Machine.
Genre, j'avais du nez, quoi. Ah non, en fait, c'est passé sur d'autres ondes avant de passer ici. Bref, eh bien, il est plus que l'heure des brèves de la semaine à venir. Eh bien, donc, on commence par l'info pour toute la semaine, hein, c'est toujours cette permanence qui a lieu tous les jours. Hein, c'est la permanence d'aide aux travailleurs sans papier, donc de 10h à midi tous les jours à l'Union départementale de la CGT, qui est toujours au 215 cours Lafayette dans le 6e arrondissement.
Et lundi 4 mars, comme tous les lundis, permanence juridique de soutien aux sans-papiers et à leurs proches. Alors c'est plus large que la première permanence, de 18h30 à 20h à la Lutine, 91 rue Montesquieu dans le 7e.
On passe à mardi 5 mars, hébergement en danger, appel à rassemblement. Une cinquantaine de travailleurs et travailleuses sociales de différentes associations de l'urgence sociale en région lyonnaise ont décidé de créer un collectif afin de réagir face à des constats alarmants. Manque de places, d'effectifs, maltraitance des mineurs, etc. Et décident d'organiser un rassemblement mardi 5 mars à 18h devant la direction départementale de la cohésion sociale qui est au 33 de la rue Moncey dans le 3e, et il et elle disent venez nombreuses et nombreux.
Sinon, toujours mardi 5 mars 2019, c'est la causerie aux clameurs. L'histoire des bidonvilles à Lyon entre 1920 et 1970. Alors, ce n'est pas nous aux clameurs.
Hein. Oui, c'est ce que j'allais dire.
Ils ont appelé ça la causerie.
Oui, c'est tout. C'est pas un nom déposé.
Oui, c'est à 19h. Donc il y a projection du documentaire qui date de 2018, Baraque, village, nègre et bidonville, d'Olivier Chavanon et Frédéric Blanc. Cette projection sera suivie d'un débat avec les réalisateurs et d'une discussion sur cette partie de l'histoire de Lyon et sa région, et sur les résonances que cela peut avoir dans le contexte actuel. Alors c'est aux Clameurs, donc le bar Les Clameurs, bar fédératif, 23 rue d'Aguesseau dans le 7e.
Et toujours le 5 mars, c'est la projection du film Attica, révolte dans la prison de New York, 1971. Donc c'est la projection de Attica, un documentaire de 71 de Cinda Firestone sur la révolte de la prison de l'État de New York en septembre 71, qui entraîna la mort de 43 personnes et plusieurs centaines de blessés. Ça a donc lieu le mardi 5 mars à 20h à la Bourse du Travail de Lyon, et l'entrée est libre à partir de 19h, et c'est à l'invitation du collectif Les Météorites.
Mercredi 6 mars 2019, il y a une conférence gesticulée. Alors, je fais une parenthèse. Les conférences gesticulées, ce n'est jamais qu'un stand-up qui ne veut pas porter son nom. Je ferme cette parenthèse. Non, parce que j'en ai marre de ce terme, donc je le dis. La véritable histoire du 8 mars et autres récits d'importance. Alors, c'est Si les femmes existent, c'est le collectif qui vous invite, hein, organise et vous propose cette conférence gesticulée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Alors, quand? C'est le 6 mars, hein, 2019, à 20h, où? À Villeurbanne, au CCVA, 234 cours Émile Zola, métro Flachet. Et ça coûte combien? Parce qu'il y a un petit coût. Tarif plein 9€, tarif réduit 7€. Voilà.
Eh bien, on passe au vendredi 8 mars. C'est à partir de 15h40 qu'il y a un rassemblement place de la Comédie, c'est à côté de l'Opéra, pour la Journée internationale des droits des femmes. De nombreuses associations et collectifs et orgas politiques vous appellent à ce rassemblement. Plusieurs syndicats appellent à la grève ce jour-là à partir de 15h40 pour symboliser la différence de salaire entre hommes et femmes. Pour celles qui le souhaitent, ensuite, il y a la possibilité de partir à partir de 19h, d'aller défiler dans les rues au sein de la marche non mixte qui partira ensuite. Juste pour dire, de 15h40 jusqu'à ces environs 19h, il y aura un rassemblement. Vous pourrez rencontrer des assos, des collectifs, le planning, etc., différentes orgas politiques aussi, et trouver de quoi nourrir en tout cas votre cerveau.
Et si vous n'êtes pas sur Lyon le 8 mars, mais vous êtes près de Tarare, il y a une conférence gesticulée, autrice, lutteuse, poétesse, remonte en selle. Alors c'est pluriel, c'est une association qui est dans l'Ouest lyonnais, qui vous présente la conférence gesticulée de Laure Clergeon, le 8 mars à 20h30, et donc comme je le disais, à Tarare. Autrice, lutte-main, je vous la refais pas, je l'ai fait au copier-coller doublé qui ne sert à rien. Ou comment l'expérience de la non-mixité nous transforme. Dans cette conférence gesticulée, Laure nous raconte comment sa rencontre avec le féminisme dans les années 90 a bouleversé sa compréhension du monde. C'est à Tarare, salle des fêtes Joseph Triomphe, à 20h30, place de la gare.
Eh bien, très
je ne redis pas 69.
Non, c'est à Tarare, on a compris.
Le gars qui a fait 5 copier-coller qui servait à rien.
Eh bien, il est 23h02, nous allons nous quitter, vous donner rendez-vous dimanche prochain, toujours de 22h à 23h pour la causerie. Eh bien, et avant ça, on va se quitter avec un titre de
musique. Alors, on va se quitter avec un titre de Mark Hollis. Alors, Mark Hollis, vous ne voyez pas, sûrement pas qui c'est, mais c'était le chanteur du groupe Talk Talk, voilà, qui est décédé cette semaine. Et les gens se souviennent souvent de Such a Shame, voilà, ou It's My Life. En fait, ils ont fait des choses beaucoup plus larges que ça. Je vous invite vraiment à aller écouter l'émission du Petit Bazar, parce qu'ils ont fait une émission hier qui était vraiment géniale sur Mark Hollis et sur toute sa carrière. Et vraiment, j'ai trouvé qu'ils ont fait un super boulot. Je vous invite vraiment à aller l'écouter. C'est sur leur site et donc du coup on va se quitter avec The Color of Spring, qui est un titre issu du dernier album de Mark Hollis, le seul qu'il ait fait en solo, qui date de 98. Après il s'est retiré de la scène. D'accord. Voilà.
Tu as précisé que le Petit Bazar était sur Radio Canada.
Ah oui, bien sûr, le Petit Bazar sur Radio Canada.
Ouais, donc vous trouverez le blog
tous les samedis à 13h, voilà. Et normalement c'est 13 à 14, mais des fois ils font 13 à 15 et demi comme là. Et non mais vraiment ça vaut le coup, leur émission, elle reprend vraiment toute la carrière de Mark Hollis et voilà, vous découvrez vraiment quelqu'un qui était d'une sensibilité hallucinante sur la musique et qui se demandait comment on pouvait inclure les silences dans une musique, et je trouve que c'est une belle démarche, voilà. Et on se quitte avec à mes yeux un de ses plus beaux titres, The Color of Spring. Voilà.
Et puis ben on vous fait des bisous, on vous souhaite bon courage pour la semaine à venir.
Bonne soirée à tous.
Merci MK de ta visite.
Oui, je t'en prie.
Merci Clara de la technique.
Bah, de rien.
Et de tes quelques mots sur le film Grâce à Dieu.
Ton avis était pertinent.
Ça taquine dans les studios. Et ben allez, on vous dit à la semaine prochaine. Et ciao.
Bonne
ciao.
Écoute de Mark Hollis.
Ciao. Thank you.
Paritaire, séculaire, solidaire, humanitaire.